cours d'économie. À toutes et à tous, bienvenue et bonne écoute. La situation du marché des produits pétroliers en RDC dans ce numéro de Écho d'économie, parce que le gouvernement ne paye pas régulièrement le manque à gagner aux opérateurs économiques. Ces derniers disent travailler à perte et ne savent plus renouveler les stocks. À Bukavu, dans le sud Kivu, comme dans le Haut-Katanga, la pénurie de ces produits entraîne déjà la hausse des prix. Nous parlons aussi dans ce numéro Écho d'économie de la promotion de l'émergence de la femme dans le secteur café-cacao, l'objectif que s'est assigné l'organisation dénommée Initiative des femmes dans le café-cacao, IFCA en abrégé. Cela se passe à Goma, dans la province du Nord Kivu. Bienvenue à toutes et à tous et merci d'écouter Écho d'économie chez vous. Nouvelle crise dans le secteur pétrolier en RDC et particulièrement dans les provinces du Sud Kivu et dans le Haut-Katanga. De 3000 francs il y a quelque temps, le litre se négociait à ce jour jusqu'à 8000 francs congolais à Bukavu. Sur place, les pétroliers refusent de commercialiser le carburant et disent travailler à perte. Ils réclament un réajustement à la hausse de la structure officielle des prix. Nous en parlons avec vous, Cynthia Bachizi. Cette situation ne fait que durer depuis un moment. Comment en est-on arrivé là?
Tout simplement parce que nous sommes dans un régime de subvention concernant le prix du carburant. C'est-à-dire, le gouvernement prend en charge une bonne partie du coût du litre à la pompe pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs face à la flambée des prix des produits pétroliers à l'échelle internationale. À titre illustratif, à Kinshasa, l'État rajoute 1200 francs congolais sur les 2995 francs congolais du prix que paye le Congolais pour chaque litre d'essence à la pompe, et ainsi de suite. Mais seulement, cet argent, cette compensation tarde à arriver dans la trésorerie des pétroliers qui accumulent des pertes et manquent à gagner. Rappelons-nous de la correspondance du groupement des pétroliers du 11 octobre adressée au vice-premier ministre en charge de l'économie. Ici, la corporation demandait ne serait-ce qu'un paiement partiel pour éviter la catastrophe.
Mais Cynthia, le gouvernement s'est toujours voulu rassurant sur cette question. Il n'y aurait pas de crise, nous avons toujours entendu.
Le ministre des Finances a toujours démenti formellement un prétendu blocage des paiements des pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières. L'État congolais reconnaît tout de même une dette de plus de 100 millions de dollars américains à ces sociétés qu'il continue de payer selon un plan convenu avec toutes les parties, précise le ministère des Finances. Plus récemment, dans le Haut-Katanga, Vital Kamerhe déclarait que le gouvernement compte publier une nouvelle structure officielle des prix des produits pétroliers pour approcher progressivement des prix d'équilibre, ce qui permettra de mettre fin définitivement à cette situation de perte et de manque à gagner dans le secteur, selon le patron de l'économie congolaise.
Avec cette nouvelle pénurie, Cynthia, au sud Kivu et au Katanga, peut-on dire ici que le gouvernement ne tient pas promesse?
Dans tous les cas, l'action est lente pour l'heure selon les opérateurs pétroliers. Quand on écoute le président de cette corporation dans le sud Kivu, par exemple, il dit qu'il y a urgence de fixer le juste prix à la pompe car les membres de la corporation enregistrent une perte de 2000 dollars américains par camion. Mais vous l'avez encore suivi sur nos antennes, le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Assurance donnée à l'issue du Conseil des ministres du vendredi dernier. Si pour le moment Kinshasa semble être épargné, la situation devient intenable dans le Haut-Katanga, mais aussi à Bukavu, où les transports en commun connaissent une hausse vertigineuse des prix. Attention donc à l'effet papillon.
Attention à l'effet papillon, donc, dans la partie ouest, où la situation est un peu similaire à celle de la partie est. Merci Cynthia Bachizi pour toutes ces informations. La province du Nord Kivu qui est aussi touchée par cette pénurie, ici, le prix de la course de transport en commun a doublé, voire triplé selon la distance. Les taxibus font payer 1000 francs au lieu de 500 francs. Le taxi-voiture passe à 2000 francs ou plus contre 1500 francs. Les motocyclistes, eux, exigent entre 1500 et 3000 francs congolais par course. L'effet d'entraînement s'est fait aussi sentir sur les prix des vivres qui ont aussi considérablement doublé sur le marché. Cela du fait que les camionneurs se disent embarrassés par le prix du carburant que leur proposent les revendeurs qui sont restés seuls avec l'armée à accéder aux produits pétroliers. Il faut rappeler ici que c'est depuis vendredi de la semaine dernière que les les opérateurs pétroliers du Nord-Kivu sont en grève. Ils exigent une nouvelle structure des prix de produits pétroliers. Le solde des opérations financières de l'État au 13 octobre 2013 est déficitaire. Selon les statistiques de la Banque centrale du Congo, l'État a encaissé en cumul annuel 14 720,6 milliards de francs congolais comme recettes et a dépensé 16 690,7 milliards de francs congolais. Le solde déficitaire est donc de 1 865,2 milliards de francs congolais. Pour baisser la forte pression des dépenses public sur la trésorerie en ce dernier trimestre 2023, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a annoncé des mesures restrictives visant à mieux contrôler les dépenses, préserver les équilibres et maintenir la stabilité macroéconomique et donc, seules les dépenses contraignantes au quatrième trimestre 2023 seront privilégiées. C'est le compte-rendu du Conseil des ministres de vendredi dernier qui le dit. Laissons Kinshasa pour aller dans la province du Nord-Kivu. L'organisation dénommée Initiative des femmes dans le secteur café-cacao, IFCA, se fixe comme objectif promouvoir l'émergence de la femme productrice du café, surtout dans la consommation. La responsable de cette plateforme qui encadre les femmes et jeunes œuvrant dans la chaîne de valeur café-cacao en RDC l'a dit le week-end à Goma. C'était en marge de la journée mondiale du café célébrée chaque 1er octobre. C'est un reportage de Sifa Maguru.
Dans toutes les filières agricoles, la femme passe 80% de son temps au champ alors qu'elle est absente dans les circuits commerciaux. La présidente du conseil d'administration de IFCA ajoute que, n'étant pas propriétaire terrien, les femmes n'atteignent pas une production suffisante pour l'exportation. C'est ce qui explique l'implication de IFCA dans la promotion de la consommation locale du café afin de permettre à la femme d'accéder à ce marché. Marie-Paul Bambaga Ntakobajira.
Nous voulons que la femme qui produise le café puisse trouver les marchés à l'intérieur. Parce que vous savez très bien que le Congo, c'est une société de consommation. Si vous parcourez les supermarchés, les bureaux des chancelleries, des autorités, vous allez trouver des cafés, mais produits à l'étranger. Alors que nous avons un bon café et qui est compté parmi les meilleurs, mais dont on ignore les vertus, les saveurs et les constitutions.
Elle ajoute que IFCA se rallie également aux stratégies mises en place sur le plan continental pour la protection de la production locale du café. C'est pour faire face à la concurrence par rapport au marché international, entre autres la ZELCAF, dit-elle.
Drink African Coffee, Build Africa. C'est-à-dire, si on boit les cafés africains, on participe directement à la construction de l'Afrique. Et ça, nous avons dit que nous allons l'adapter par rapport au contexte du Congo. Boire les cafés congolais, construire le Congo.
Pour atteindre cet objectif, certains membres de IFCA ont bénéficié d'une spécialisation sur les cafés, ses vertus et toute la chaîne de transformation. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Écho d'économie.
Place à l'invité de l'économie. Écho d'économie reçoit pour vous ce soir Madame Véronique Baca. Elle est coordinatrice du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient, PADRIR en abrégé. Elle nous parle des activités que ce projet a réalisées en 2023 et le plan de travail budgétaire annuel pour l'année 2024. Véronique Baca, l'invité de l'économie, répond aux questions de Florence Kizalunga.
Madame Véronique Baca, bonjour.
Bonjour madame.
PADRIR vient de présenter aujourd'hui le rapport des activités menées l'année 2023. Que peut-on retenir? Qu'est-ce que vous avez mené comme activité l'année 2023?
Bon, si on doit retenir quelque chose pour l'année 2023, c'est l'acquisition et la distribution de la semence. La semence des bases pour les agrimultiplicateurs et la semence commerciale pour les organisations paysannes et ainsi que les ménages agricoles. Et aussi, nous avons fait une étude de caractérisation des bassins de production. Nous avons fait une étude d'identification des pistes rurales prioritaires à réhabiliter. Et aussi, nous avons distribué quelques matériels informatiques aux services techniques de l'État.
Et là aussi, le comité vient encore une fois d'adopter le PTBA 2024. Qu'est-ce qui est contenu dans ces PTBA?
Bon, le PTBA 2024, nous avons retenu d'abord, en premier lieu, c'est toutes les activités qui étaient prévues pour 2023, qui n'ont pas connu un achèvement en 2023, vont être versées dans le PTBA 2024. Et le maniement, ce qu'on doit retenir, c'est que pour 2024, le maniement aura sa propre semence dans la province. Et 2024, c'est une année des grandes des activités où l'on va appuyer INERA pour la production de la semence de base avec l'équipement des laboratoires et fournitures en intrant. Il y aura aussi la réhabilitation des pistes rurales ainsi que les études pour l'épine dorsale. L'épine dorsale, c'est cet axe routier qui va de Lubutu à Kananga en passant par la Lomami ainsi que le Kasaï oriental.
Madame, votre projet de 7 ans, déjà une année consommée avec beaucoup de difficultés, comment vous allez vous rattraper pour les 6 premiers mois que vous n'avez pas travaillé?
C'est vrai que nous avons perdu de temps. Nous n'avons pas tellement perdu de temps. Le temps là que nous avons eu, le temps de difficultés, nous a permis de pouvoir bien comprendre le projet et d'affiner les stratégies de mise en œuvre, ce qui nous permet aujourd'hui, et vous allez voir avec le PTBR que nous venons d'adopter, nous atteignons la vitesse de croisière parce qu'au moins nous pouvons dire que nous savons plus ou moins bien ce que nous devons faire parce que nous avons mis le temps à pouvoir discuter, à pouvoir bien comprendre les difficultés ainsi que les pistes des solutions et à bien peaufiner les stratégies. Et en plus, nous avons introduit une innovation cette année, nous avons introduit de la semence de riz de bas fond, et le riz de bas fond n'a pas des saisons. On peut la planter à tout moment.
Et il y a certains bénéficiaires qui ils ont reçu la semence après avoir planté une autre semence dans leur champ. Est-ce que les semences que vous donnez, est-ce que c'est conseillé de planter dans un même champ deux semences?
S'il vous plaît, nous avons deux catégories de bénéficiaires. Nous avons les agri-multiplicateurs qui sont des producteurs de semences. Et tout producteur de semences sait qu'il ne peut pas planter la semence en association avec d'autres spéculations. Pour les agri-multiplicateurs, ils ne se posent pas de problème. Ils savent s'il avait apprêté un champ et que le champ a été utilisé pour autre chose, il ne pourra plus y mettre de la semence parce qu'il doit respecter des isolements. Par contre, pour les ménages agricoles, ils ont l'habitude de faire des associations dans le champ et là, ça ne devrait pas poser un problème.
Madame, faire les champs, c'est une chose, mais évacuer les produits agricoles, ça reste un sérieux problème au maniement. Dans votre projet, vous avez aussi cette charge de réhabiliter aussi les routes des dessertes agricoles. Est-ce que vous avez déjà commencé les projets pour permettre aux agriculteurs, quand ils vont commencer à faire la récolte, de bien évacuer ces produits?
Alors, le problème d'évacuation de produits est un sérieux problème. Il est tellement sérieux que aucun projet agricole ne peut être monté sans penser aux routes des dessertes agricoles. Et dans notre projet, nous avons pensé aussi aux routes des dessertes agricoles et nous avons commencé par faire l'identification des routes prioritaires qui relient les bassins de production vers les centres de commercialisation et de consommation. Et dans notre projet, dans Patrick, pour cette première année, nous sommes arrangés d'appuyer les agri-multiplicateurs ainsi que les ménages qui sont installés autour, dans un rayon moindre autour des agri-multiplicateurs, de telle sorte à minimiser le déplacement de la semence.
Madame, aux 6 premiers mois, il y avait des difficultés. Maintenant que ce problème est résolu, qu'est-ce qui reste comme défi maintenant pour que le projet soit bien réalisé?
Le défi aujourd'hui, c'est garder la tête haute et pouvoir adresser toutes les attentes des populations qui nous voit aujourd'hui en train de nous relever. Parce que à un certain moment, nous avons bénéficié du fait qu'il n'y avait pas de coordonnateur, il n'y avait pas de RAF. Mais aujourd'hui que nous avons un coordonnateur, nous avons un RAF, nous avons tous les outils nécessaires. Le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir réaliser toutes les activités dans le temps. Et ça, ce n'est pas facile pour y arriver.
Madame Véronique Baka, merci.
Je vous en prie, madame.
Merci, chère dame Véronique Baka et Florence Kizalunga. Grand merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce numéro Écho d'économie sur Radio Okapi. Mais vous pouvez le réécouter au plaisir sur www.radiookapi.net.